Bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. On va s'intéresser à un monument en quelque sorte gastronomique, un patrimoine gastronomique ici dans le Lot, le fromage de Rocamadour. Son histoire, vous allez pouvoir le retrouver dans un superbe livre qui vient d'être édité aux éditions Edicos. Et c'est effectivement l'objet de notre magazine aujourd'hui, consacré au fromage Rocamadour. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Rocamadour, son village, ses vacanciers, son lieu de pèlerinage aussi, chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, et puis le fromage, évidemment. Et bien, on en parle dans ce livre que sort les éditions Edicos, du Cabécou du Quercy au Rocamadour AOP, chèvres, hommes, femmes, au fil de l'histoire. Bonjour Gilles Chevriot.
Bonjour Yannick.
Éditeur chez donc Edicos, qui revient très régulièrement, parce qu'en même temps, au niveau des livres, c'est très productif en ce moment chez Edicos. Et là, c'est... Eh bien, on rentre dans un, j'ai envie de dire, dans un patrimoine quand même, mine de rien. Parce qu'autant, de toute façon, Edicos, on sait, c'est que ce qui est patrimoine du Quercy.
Bon. Exact.
La dernière fois où tu étais venu, c'était pour nous parler de Saint-Jean-Gabriel de Perboire.
Pas de Perboire, Perboire,
Saint-Jean-Gabriel Perboire, pardon.
Oui.
Et puis, pardon, je m'excuse pour
cette... Grave.
Voilà. Et là, on rentre vraiment dans un autre domaine qui est un peu moins catholique quand même, parce qu'on rentre dans les plaisirs de la chair, il faut dire ce qui est.
Oui.
C'est... Enfin, comment tu l'expliques, ce succès de ce fromage, finalement?
Alors, tout d'abord, peut-être, on va peut-être poser quelques préalables, à savoir qu'effectivement, Edicos, comme tu l'as fort bien précisé, s'intéresse au patrimoine et ne publie que des livres sur le Quercy. Et il se trouve qu'il y a 2 ans, j'étais venu présenter à cette même antenne un ouvrage consacré à l'histoire de la laine des brebis.
Exact,
des causes du Lot,
exact.
Brebis qui ont été mises à l'honneur jeudi dernier lors de la fête de la brebis à Espédaillac, où nous avons reçu
du succès, apparemment,
beaucoup ouais. de visiteurs. Et ça a été l'occasion aussi de présenter de manière officielle l'ouvrage que nous avons l'un et l'autre entre les mains. Alors, le succès, effectivement, Rocamadour est une deuxième marche du succès de ce fromage. Le fromage en lui-même, le Cabécou, le ouais. fromage de chèvre, est d'ailleurs plus ancien que l'appellation d'origine contrôlée, puis appellation d'origine protégée aujourd'hui du Cabécou, le Rocamadour. En réalité, ce fromage est issu depuis, pas la nuit des temps, mais le livre fait référence à son histoire depuis la guerre de Cent Ans, où déjà ce fromage de chèvre était présent. Pour quelle raison? Tout simplement parce que il était facile, et c'est toujours le cas, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, il était facile pour quelques couples isolés dans une petite locature, on dirait une petite propriété de modeste, d'avoir quelques chèvres qui, on va dire, sur une longue période dans l'année, permettaient de produire du lait et de nourrir à la fois, bien sûr, ceux qui élevaient les animaux, mais également de faire commerce et de servir de monnaie d'échange avec les détenteurs des terres.
Les chèvres ou le fromage servaient de monnaie d'échange, ou les deux?
Pardon?
Les chèvres ou le fromage qui
servaient
de monnaie d'échange?
Alors, le fromage. Après, la chèvre aussi, une fois que la chèvre était, ne donnait pas forcément de lait, il y avait le chevreau, puisqu'il fallait naître, le chevreau naissait. Et les chevreaux étaient aussi servaient de monnaie d'échange, c'est-à-dire que les régnants de l'époque, dans les documents qui ont servi de base à Jacqueline Basalgue pour réaliser cet ouvrage, témoigne que le locataire des terres devait donner au seigneur X fromage, X quantité de telles céréales, X unités d'animaux pour payer finalement les terres dont ils étaient locataires. Hein. C'était ça, hein, voilà. Et les seigneurs avaient effectivement autour d'eux tout un tas de producteurs de denrées, et permettait à la maison forte qui dominait l'ensemble de vivre et de prospérer. Voilà. Et donc ces animaux allaient sur le communal pour pouvoir pâturer, ce qui a donné lieu d'ailleurs après à des excès, et on en parle dans cet ouvrage, puisqu'il a fallu réglementer un petit peu la déambulation des caprins, parce qu'ils allaient brouter n'importe où,
ah ouais.
Ils causaient des dommages, ils devenaient, comme on dit aujourd'hui, persona non grata, c'est-à-dire
ah ouais.
qu'on voulait exterminer les chèvres, parce qu'ils allaient bien sûr détruire les arbres fruitiers, et en échange de leur nourriture, ils allaient faire mourir les arbres. Donc, il y avait toute une réglementation.
Il devait y avoir des sacrés conflits de voisinage.
Ah alors. Oui, il y avait des conflits de voisinage. Et puis, ça a donné lieu, d'ailleurs, à des ordonnances royales, etc., pour éviter l'extermination. Et les auteurs de l'époque, enfin, les auteurs qui se sont penchés sur la vie de la chèvre, ont toujours constaté que la chèvre était un animal de peu, qui était plutôt, on va dire, mal vu, mais d'un autre côté, permettait de faire vivre aussi des foyers, ce qui n'était pas inintéressant. Et petit à petit, ce fromage s'est affirmé au fil des années, avec les périodes de guerre aussi, avec la possibilité pour les gens de s'installer en dehors de quand il y a eu la Révolution, finalement. Tout le monde a repris un petit peu sa liberté. Et donc, ça a permis aussi à des foyers en milieu rural de pouvoir vivre de manière autonome. Et puis, la commercialisation, le fromage finalement a été, on va dire, a prospéré en communication et était très apprécié des gens qui habitaient dans les villes. Et on le voit aussi dans cet ouvrage, le nombre de pièces qui partaient du Lot chaque année, chaque semaine, chaque jour... C'était énorme, 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 énorme. Voilà. Et puis, y a eu le tournant dans les années 80 où la filière s'est organisée, mais à la période où le parc naturel régional des Causses du Quercy aussi a pris forme. C'est dans ces années-là, finalement, que le Rocamadour, le parc naturel régional des Causses du Quercy, ont communiqué, se sont installés dans l'espace. Et qu'aujourd'hui, on connaît les deux. On connaît bien sûr le Rocamadour, il en est question, puisque l'AOP, le syndicat AOP s'exprime dans ses pages. Et puis à côté, il y a aussi les producteurs indépendants qui continuent à vivre de leur production, fromage de chèvre fermier, Cabécou du Quercy.
Il y a toujours autant de producteurs, parce que si je comprends bien au début de l'histoire, tous ceux qui avaient des chèvres produisaient du Cabécou au final.
Oui. Alors je serais bien incapable de dire combien il y a de producteurs à la fois de producteurs simples, enfin de producteurs qui n'utilisent pas qui n'ont pas l'appellation d'origine protégée pour leur fromage, et puis il y a ceux qui sont dans la filière et qui respectent le cahier des charges imposé par la filière.
Alors ça, c'est intéressant ce que tu dis, Gilles Chevriot. Quand on va dans un magasin et qu'on voit Cabécou du Quercy, ce n'est pas le Rocamadour AOP, même
fait.
Si c'est dans la même famille. Qu'est-ce qui les différencie? Parce qu'au final, je vais faire un truc... Je veux dire, un truc qui va blesser le syndicat de producteurs de fromage Rocamadour et tous les producteurs aussi, si je te dis que finalement, c'est juste un fromage de chèvre.
Oui, c'est un fromage de chèvre fermier, on est bien d'accord, sauf que l'un respecte des consignes très strictes qui sont imposées par la filière et qui respecte aussi un cahier des charges qui est technique, mis en place avec les institutions qu'il y a autour... du syndicat des producteurs de fromage Rocamadour, avec des techniciens, avec des périodes, des contraintes en matière d'affinage, d'épaisseur, de poids, de conditionnement, d'étiquetage. Enfin, il y a tout cet élément qui rentre en ligne de compte. Et ça permet d'ailleurs, en suivant ces prescriptions, que les institutions qui contrôlent au niveau régional et national, le syndicat au niveau départemental, bénéficient d'aide des institutions du département, de la région, peut-être de l'Europe aussi très certainement. Voilà, parce que il y a toute une filière qui porte finalement, la filière c'est un peu, je dis, c'est la locomotive du train, hein, et puis... on va dire quand même que les producteurs fermiers de Cabécou du Quercy bénéficient quand même de cette unité derrière, mais effectivement, ils ont peut-être, on va dire, entre guillemets, plus de liberté.
Voilà. Alors justement, dans ce, parce que tu donnes à la fin de ce livre la, la parole à ce syndicat des producteurs de fromage Rocamadour, et il nous donne le chiffre qu'il y a aujourd'hui 33 fabricants, 30 producteurs fermiers, 3 entreprises collectant du lait ou du caillé à 45 producteurs, soit 78 opérateurs, tous répartis sur le territoire des Causses du Quercy, une majorité sur le département du Lot. C'est en 2021 1357 tonnes de Rocamadour. Et on parle de Rocamadour, on ne parle pas du Cabécou.
Hein. On est bien d'accord.
On est d'accord, on imagine que le Cabécou, il y en a tout autant, quoi.
Très certainement, je dirais.
Peut-être plus.
Oh oui, je pense.
Parce que la zone est plus grande, peut-être.
Oui,
aussi.
Parce qu'effectivement, le Cabécou du Quercy est aussi produit sur certaines communes des départements limitrophes. Alors, il y a dans le document officiel par rapport à la terminologie du fromage, effectivement, il y a la liste même des communes sur les départements limitrophes qui sont autorisés à porter le nom du fromage sur leur étiquetage.
Mais pourquoi on a décidé, alors si mes souvenirs sont bons, je crois que c'était en 1991, le syndicat, la création du syndicat et de l'AOP Rocamadour, un peu par là, si je vois par rapport...
Alors d'abord il y a eu l'AOC, puis après il y a eu l'AOP. Hein.
Alors voilà, qu'est-ce qui a fait en sorte que l'on transforme ce Cabécou de... qu'on veuille en faire un AOP. Il était en danger, ce fromage ?
Très honnêtement, je pense que c'est par rapport aux institutions avec lesquelles le syndicat travaille et parce qu'effectivement, là, c'est pareil, je serais bien incapable de répondre, mais l'appellation d'origine protégée, le dernier mot veut bien dire qu'effectivement, il bénéficie d'une protection beaucoup plus importante que quand il était en appellation d'origine contrôlée. Voilà.
Alors j'imagine c'est aussi peut-être parce que tout le monde faisait n'importe quoi avec ce fromage.
Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais bon, c'est pour mieux encadrer finalement la production et avoir, on va dire, une qualité optimum avec les producteurs qui se sont engagés en signant cette charte d'appellation d'origine protégée.
Parce que dans ce livre que vous sortez, qui est toujours rempli, comme à chaque fois, de photos d'archives, d'archives et même de collections personnelles,
oui,
il y a notamment cette photo d'un menu offert par le Conseil général du Lot lors de la visite à Cahors du président Raymond Poincaré, c'était le 13 septembre 1913. À l'époque, il n'y avait pas l'AOC ni l'AOP, j'imagine, et c'était fromage de Rocamadour.
Oui, tout à fait, fromage de Rocamadour.
Alors, ça avait déjà la classe, quoi.
Alors, c'est vrai que le fromage de chèvre fermier a bénéficié de tout un tas d'appellations, petit fromage de chèvre, fromage de Rocamadour, il est passé par toutes les les strates de noms autour de la terminologie fromage, et puis finalement aujourd'hui voilà, on peut dire que sur certains menus d'aujourd'hui on va avoir le Rocamadour, on va avoir fromage de chèvre fermier, fromage de chèvre. Mais bon, voilà. Alors, le Rocamadour, on le trouve aussi, bien sûr, dans les grandes maisons. Par exemple, je pense à nos bonnes tables du Lot, que je connais aussi, qui font honneur à ce fromage. Et d'ailleurs, si l'on va sur le site internet du syndicat des producteurs de fromage Rocamadour, on voit aussi la liste des chefs des bonnes tables qui présentent ce fromage à leur carte. Et bien sûr, ces fromages fermiers Rocamadour sont expédiés aussi à des grandes maisons en région parisienne ou dans les grandes villes, hein, Bordeaux, Toulouse, Paris. Ces fromages sont reconnus aussi et arrivent grâce effectivement aux négociants qui achètent ces fromages et qui vont les mettre en place soit directement chez leurs clients, ou par l'intermédiaire des marchés d'intérêt nationaux comme Rungis, comme le marché de Montauban, Toulouse, etc. Hein, voilà.
Et à l'étranger ?
Alors à l'étranger, non. Globalement, je crois que le seul pays où il y a du Cabécou, ben, d'après ce que j'en sais, mais je ne suis pas sûr à 100%, c'est au moins la Belgique où il y a quelques unités qui partent à l'export.
Hein. Quelques unités. C'est nous les Français qui sommes encore plus gourmands de ce fromage de Rocamadour.
Bon, voilà, après, vous savez, c'est compliqué transporter du fromage dans des conditions optimum, sur de longues distances. Et après, il y a un coût, il y a des délais. Et voilà.
Dans ce livre, Gilles Chevriot, vous mettez aussi à l'honneur des personnes qui ont par leur manière, participé au développement de ce fromage, notamment des personnes qui vendaient ce fromage. Et là, normalement, c'est sûr, vous mettez à l'honneur Madame Pégourier.
Et oui, pourquoi? Alors, Marthe Pégourier, dans le Lot, c'était une institution. Elle n'existe plus aujourd'hui, mais elle tenait commerce à Gramat, qui est un petit peu la ville étoile de part tout le reste, puisque quand on lit attentivement cet ouvrage, on s'aperçoit que les producteurs sont tout autour, Couzou, Rignac, Lunegarde, Le Bastide, etc. Voilà, toutes ces petites villes, tous ces villages, dans ces villages. Madame Marthe Pégourier, qui tenait boutique et qui était, on va dire, affineuse, puisqu'elle achetait frais les fromages.
Ah, d'accord.
Voilà, elle affinait les fromages chez elle et elle collectait ces fromages chez plus de 80 producteurs. C'est des milliers de fromages, des dizaines de milliers de fromages qui lui sont passés entre les mains. Et donc, elle les collectait. Et ensuite, elle les faisait sécher chez elle.
Dans sa cave, une cave adaptée et tout.
Voilà, elle les enveloppait, puisque le fromage aussi était enveloppé dans des feuilles de noyer, etc., par exemple, pour ce qu'on appelait les fromages dans les feuilles. Selon les commandes, elle envoyait soit des fromages frais, des fromages demi-secs, des fromages secs. Elle avait toute une gamme. Et d'ailleurs, dans le livre, on la voit... en fin d'ouvrage, présenter des plateaux de fromage pour la photo.
Ouais.
Et sa boutique, d'ailleurs, on voit une photo, page 66, où on voit à la fois les fromages frais qui sont sur des clayettes et à la fois les fromages enveloppés dans une feuille avec, bien sûr, le lien qui permet de faire en sorte que le fromage ne soit bien... logé dans cette petite feuille. Et on la voit sur sa boutique, où elle ne vendait pas que des fromages de chèvre, mais elle vendait des produits fins, des confitures, des noix, du vin et autres produits, foie gras bien sûr, et autres produits du Quercy. Et c'était une institution. Voilà, Gramat, dans la visite de Gramat, il fallait passer devant la visite de Marthe Pégourier, quoi. Voilà. Alors, cette boutique aujourd'hui a été reprise, elle existe toujours. Il y a quelqu'un qui a repris la suite et qui fait aussi...
L'affinage aussi, pareil.
Alors, l'affinage, je n'en
suis pas. Ça devient un peu plus compliqué, peut-être, avec les nouvelles normes et autres.
Voilà, et en tout cas, il fait aussi la torréfaction de café. C'est une épicerie fine, comme ça se fait beaucoup maintenant. Voilà, et Marthe Pégourier a repris aussi la suite d'un commerce célèbre de l'époque, la famille Camboni, qui expédiait. Vous voyez, la famille Camboni, et on parle même de la famille Poujade, ouverte en 1913. On l'a cité tout à l'heure, ouais. Poincaré, 1913, là, la famille Poujade expédiait ses produits dans la capitale dans les années 1950. Alors, vous voyez un peu le chemin parcouru par ces gens dans des villages tout à fait modestes, mais qui ont imprimé leur marque et qui ont permis aujourd'hui à faire ce fromage ce qu'il est. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'ouvrage, le titre principal, c'est « Du Cabécou, du Quercy au Rocamadour à Opé », pour voir un petit peu le fil de l'histoire. Mais j'ai souhaité dans le titre associer avec les chèvres, les hommes et les femmes. Voilà.
Et on n'a pas parlé justement d'où est venue cette idée de faire un livre sur ce fromage de Rocamadour, parce que c'est Jacqueline Bazalgue qui l'a écrit.
Oui, c'est simple. Alors, il se trouve que, puisque je publie des ouvrages sur le Quercy, j'avais remarqué il y a maintenant 2 ans un livre qu'elle avait écrit sur les mariages au 19e siècle. Et je lui avais envoyé un petit mot en lui disant que j'avais trouvé ce livre très intéressant. Et elle m'a rappelé en me disant « J'ai un projet, je suis en train d'écrire un livre sur le Cabécou du Quercy, je cherche un éditeur. » Et ben, je lui dis « Je serai votre éditeur. » Et voilà.
C'était logique en même temps.
C'était logique,
évidemment.
Voilà.
Du Cabécou, du Quercy au Rocamadour à Opé, un chèvre, homme, femme, au fil de l'histoire aux éditions Edicos. C'est un livre que l'on vous conseille sur toute l'histoire de ce fromage, avec des photos quand même qui sont toujours tout aussi belles.
Oui, et alors je vais remercier les contributeurs. Alors mon contributeur principal, c'est Jean-Michel Rivière.
Collectionneur.
Collectionneur, secrétaire de l'association des collectionneurs du Lot, et qui répond toujours avec grande gentillesse et efficacité aux demandes que je lui envoie. On a fait l'année dernière un livre sur le Cahors perdu des années 20, 1960. Il était présent et je sais qu'il y a encore derrière des projets à venir. Voilà, donc je remercie Jean-Michel. Et puis pour les grandes photos quadrilles et la couverture, bah, Jean-Louis Nespoulous, photographe bien connu, qui nous donne des clichés, on va dire, de pleine nature. Et chaque entrée de chapitre correspond à un cliché différent. Et puis aussi Pierre Lasven, qui est aussi quelqu'un très connu dans le monde du monde agricole, puisqu'on le retrouve chaque année au Salon de l'agriculture, aux côtés du comité de promotion des produits du Lot, pour être sur le stand et faire les photos des personnalités qui viennent avec se mettre devant les élevages avec les petits chevreaux ou les petites brebis dans les bras. Donc notre ami aussi Pierre Lasven nous a fourni des clichés intéressants d'un lieu qui est connu des amis du Rocamadour. C'est la Borie d'Imbert à Rocamadour, qui est une ferme pédagogique, mais aussi un lieu de présentation des fromages et des produits fermiers, et où le livre est également présent depuis quelques jours. Voilà.
Et bien voilà, et ben plus les éditions Edico se viennent nous présenter les livres, et plus personnellement je me rends compte que le Lot est vraiment un territoire riche dans tous les sens du terme, au niveau gastronomie, au niveau patrimoine, au niveau histoire.
Voilà, et puis je terminerai en disant aussi tout l'intérêt du conseil départemental pour cet ouvrage, puisque je remercie Serge Régal d'avoir signé
la préface de
l'ouvrage. Ça signifie, et quand on peut lire le texte qu'il a écrit, on sent vraiment l'attachement de l'homme et de l'institution pour nos productions. Je le remercie.
Du Cabécou, du Quercy, au Rocamadour, à OP, chèvre, homme, femme, au fil de l'histoire, aux éditions Edicos, disponible donc chez les libraires
Oui, et dans les maisons de la presse.
Et dans les maisons de la presse.
Oui, Gramma, Rocamadour, Figeac, Saint-Céré, Cahors, Gourdon, voilà, La Bastide Murat aussi.
Et bien, faites-vous plaisir, c'est un très, très, très beau livre. Merci Gilles Chevriot de l'avoir, d'être
plaisir,
venu nous présenter.
Avec plaisir.
C'est la fin de ce magazine, vous allez pouvoir le réécouter tout à l'heure en rediff à 17h et à 21h30 et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.